quel est ce cri surprenant ?
Si j'étais une espèce, je serais.
Alors, le grand tétra, c'est l'oiseau emblématique du Rizou, qui est un oiseau terrestre, noir, avec une queue en éventail, qui est difficile à voir, qui est difficile à entendre, et qu'il ne faut surtout pas déranger.
Derrière le chant du grand tétra se cache la voix de Jérôme Sueur.
Si j'étais un naturaliste du 21e siècle,
j'étais un naturaliste, je serais.
Alors, c'est pas forcément un solitaire.
Jérôme Sueur.
Enfin, ce sont des solitaires, mais ils se retrouvent en ce qu'on appelle des lecs. Les lecs, c'est des regroupements de mâles qui cherchent à séduire les femelles. Ils se retrouvent au même endroit, ils paradent au même endroit. Et les femelles passent, puis choisissent. Voilà. Et donc, cet oiseau est vraiment en perte de vitesse. Et donc, on a aussi un projet avec l'Université de Saint-Étienne, avec Frédéric Seb, de suivre ces populations d'oiseaux, de savoir quand est-ce qu'ils paradent, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'y aller pour ne pas les déranger. Donc là, l'acoustique a tout son sens, parce qu'on met les magnétophones et on n'est pas là, et on les dérange absolument pas.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturalistes du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Cinquième escale, le grand tétra et le hareng. Une exploration sonore.
Position.
Forêt du Rizou. Massif du Jura.
Latitude.
46 degrés nord.
Longitude.
6 degrés est. Queue déployée, aile pendante, cou et tête redressées, barbe hérissée, le coq parade et chante. C'est le grand tétra, surnommé le coq fou. Sauvage et menacé, il est l'oiseau emblématique des forêts montagneuses du Jura. Alors avec nos micros et nos hydrophones, c'est toujours en compagnie de Jérôme Sueur que nous partons enregistrer les paysages pour en déduire la santé des écosystèmes sans perturber les espèces. Alors vite, des forêts françaises au fond marin, allons explorer d'autres paysages sonores.
Alors le paysage sonore de la forêt du Rizou est complètement différent en effet. C'est une très belle forêt qui est une forêt froide. En effet, la température moyenne annuelle est de 5 degrés, simplement. Donc il fait vraiment froid. Mais malheureusement, il fait de moins en moins froid. Le réchauffement climatique se fait ressentir dans le Rizou. Alors c'est une ambiance sonore qui est essentiellement dominée par les oiseaux. Il n'y a pas d'amphibiens, donc c'est surtout des oiseaux, c'est surtout le matin, au réveil, hein, au lever du soleil. Il y a des insectes, mais ils ne sont pas dominants. Et on a un paysage sonore qui est a priori très calme, notamment
plus calme,
plus calme en hiver, moins dense hein, d'un point de vue de la biophonie, mais qui a un intérêt d'être suivi parce que malheureusement on prévoit que ce paysage sonore va changer avec le changement climatique parce que c'est un environnement très froid et donc finalement c'est comme un environnement de haute montagne hein, ce sont les plus impactés par un changement de température et un changement aussi dans le régime hydrique, enfin le régime des pluies. On prévoit qu'il y aura plus de pluie, peut-être plus de vent, moins de neige. Donc tout ça, ça va changer le paysage sonore. Donc l'idée, c'est de le suivre sur le long terme. Donc on a un projet qui est sur 15 ans, qui a déjà maintenant 3 à 4 ans. Et donc, on prévoit de voir un changement. En fait, au début, on se disait 15 ans.
De voir l'évolution des espèces.
Alors voilà, des espèces avec peut-être le départ de certaines espèces.
Mais lesquelles, pour l'instant, vous commencez à pouvoir faire des hypothèses?
Alors, il y a déjà des espèces qui, en tout cas, on les voit plus. Par exemple, le venturon montagnard, qui est un oiseau de montagne, le venturon montagnard. Et qui, en tout cas, nos collègues du parc naturel régional du Haut-Jura ne l'entendent plus, ne le voient plus. Et certaines espèces comme ça, qui sont vraiment de milieu froid.
Le grand tétra.
Alors le grand tétra, c'est l'oiseau emblématique du Rizou, qui est un oiseau terrestre. Et donc, cet oiseau est vraiment en perte de vitesse. Et donc, on a aussi un projet avec l'Université de Saint-Étienne, avec Frédéric Seb, de suivre ces populations d'oiseaux et de savoir quand est-ce qu'ils paradent, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'y aller pour ne pas les déranger. Donc là, l'acoustique a tout son sens, parce qu'on met les magnétophones et on n'est pas là, on ne les dérange absolument pas.
Oui, vous dérangez absolument pas le milieu naturel.
Rien du tout, quoi. On met une petite boîte dans un endroit souvent caché, ça ne dérange absolument pas.
Et où est-ce que vous mettez vos boîtes, justement? Est-ce que c'est dans des milieux difficiles d'accès? Comment vous choisissez vos sites?
Là, les sites ont été choisis selon la configuration du paysage. C'est des endroits où, dans le Rizou, les promeneurs ne vont pas. En effet, on sort des sentiers, on essaye de s'éloigner des sentiers, d'aller dans des endroits qui sont pas occupés, qui ne sont pas utilisés. Et en fait, ce sont des endroits utilisés par les oiseaux et ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression tout autour que ces oiseaux se retrouvent dans des toutes petites poches préservées. Voilà, ce sont des endroits où on ne balade pas très facilement, il n'y a pas de chemin, il y a des trous partout. Mais ce sont des très beaux endroits. Et voilà, et donc là, les magnétophones, on les installe sur des arbres et on peut savoir quand est-ce que les grands tétras sont là. Et l'objectif, c'est de... On ne le fait pas encore, on ne sait pas encore le faire, c'est de savoir combien il y a d'individus. Parce que c'est extrêmement important, c'est toute petite population, on est sur des dizaines d'individus. Donc de savoir s'il y en a 15, 20, 30 ou 40, c'est extrêmement important. Donc on espère pouvoir faire ça, mais ça suppose que l'on sait reconnaître individuellement les individus, hein, qu'on sait les reconnaître. Donc il faut savoir décrire leur signature sonore.
Et on parlait des départs de certaines espèces. Est-ce qu'il y a des arrivées avec ce réchauffement climatique aussi? J'imagine que ça change dans les deux sens.
Oui. En fait, le réchauffement climatique peut profiter à certaines espèces. Des espèces qui sont plus dans des niches climatiques clémentes et qui sont aussi finalement tolérantes à des changements. Et alors c'est des espèces de vallées en fait, plutôt communes, qui sont le merle par exemple, les pinsons, certaines mésanges, qui vont en fait monter un petit peu en altitude alors qu'elles sont plutôt en vallée. Le problème, en fait, c'est qu'on n'aura pas forcément une perte de diversité, mais on aura une forme d'homogénéisation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des paysages sonores qui sont occupés par des espèces dites généralistes, qu'on va retrouver un peu partout. Donc on va perdre en diversité. On aura le même paysage, on peut craindre qu'on ait le même paysage dans la forêt du Rizou que dans les vallées autour. Donc voilà, finalement une grosse perte de diversité. On perd dans la particularité sonore.
Autre paysage sonore assez inexploré, là j'ai lu le journal ce matin qui disait que les fonds marins étaient moins connus que la surface de la Lune.
Position
Baie de Saint-Pierre-et-Miquelon, fond marin.
Latitude
46 degrés nord.
Longitude
56 degrés ouest.
Les milieux, en effet, marins regorgent de sons inconnus. En effet, on est là aussi dans des territoires à explorer d'un point de vue acoustique. On connaît énormément de choses sur les baleines, les dauphins.
Sur des
espèces très emblématiques. Il y a énormément de recherches sur ces grands mammifères. Mais on oublie finalement d'autres sons produits, notamment par les poissons.
Les carpes
ne
sont pas muettes.
Non, il y a beaucoup de poissons qui produisent des sons. Il y a une équipe en Belgique qui travaille sur ces sons des poissons et qui découvre énormément, qui décrit ces sons inconnus. Il y a une vingtaine d'années, oui, on ne parlait pas des sons des poissons. Maintenant, on en parle beaucoup. Ils grognent, en fait. Ils ont plusieurs modalités de production sonore. Notamment, ils appuient sur leur vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est une sorte de vessie, mais pas remplie d'urine, mais de gaz, qui permet aux poissons de monter et de descendre, en fait, en faisant varier la pression dans la vessie natatoire.
J'ai entendu parler de flatulence.
Alors, il y a quelques... C'est les harengs qui, je crois, pètent.
Ouais, c'est possible.
Et voilà, bon. Mais il y a toute une diversité sonore.
On est loin du monde du silence de Cousteau.
On est complètement, en fait, on est très, très éloigné de ça. Rien que par ces crevettes de pistolet qui crépitent partout. Et en fait, c'est un peu comme pour la forêt tropicale, où on pense qu'aux singes hurleurs. Pour les fonds marins, on pense qu'aux baleines et aux dauphins, alors qu'il y a toute une diversité, notamment dans les récifs coralliens. Il y a toute une diversité, c'est les forêts tropicales des fonds marins, où il y a énormément de sons. Et là, c'est pareil, on peut estimer l'état de santé d'un récif corallien en l'écoutant. Par la diversité de sons qu'on enregistre, on a des informations sur la diversité tout simplement qu'il y a dans ces récifs coralliens. Il n'y a plus besoin de prélever, de plonger, il suffit de plonger, de mettre un hydrophone dans l'eau et on peut avoir des informations sur...
Ça fait partie des outils que vous utilisez, les hydrophones, dans vos milieux, dans vos écosystèmes étudiés ?
Alors on en a utilisé quand on a étudié les mares ou les petits cours d'eau. Pour l'instant, on ne s'en sert plus, mais ça fait partie des équipements que l'on a. On a des hydrophones ici, oui, tout à fait.
À suivre. Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. En compagnie de l'éco-acousticien Jérôme Sueur. Cinquième escale, le grand tétra et le hareng. Une exploration sonore. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.